18e cours.
Écris parmi nous ce que nous avons vu, et puis nous achèverons le livre des sorts. Nous allons très bien, très rapidement, c'est quand même nécessaire d'avoir un petit regard de la terre, quelque chose de très important. Je vous rappelle que vendredi, il y a un séminaire de philosophie du rêve. Alors, je vous rappelle, n'est-ce pas, que nous avions commencé à faire une entreprise difficile, j'en ai pleine conscience pour vous, parce que c'est très difficile, le livre de métaphysique d'Aristote est difficile, mais d'autre part, c'est capital pour rentrer un peu dans la santé d'Aristote. Je crois que c'est vraiment le livre des métaphysiques auquel on doit tout le temps venir. Ça n'empêche pas de dire d'autres aspects de la philosophie d'Aristote sont importants, mais c'est quand même là où nous touchons un peu à sommet de sa pensée. Et c'est important que, toute part philosophie est une recherche, on doit essayer de voir ce que représente cette recherche de la philosophie première. Alors, je vous ai dit, au point de départ, que l'interprétation d'Aristote se fait de multiples manières. En gros, nous avons trois grandes interprétations. Nous avons l'interprétation dite classique, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on vend la classique. L'interprétation dite classique, c'est-à-dire d'essayer de saisir dans Aristote l'unité de la philosophie aristotélicienne. D'où nécessairement une certaine systématisation. Quand vous regardez la manière dont Saint Thomas commente Aristote, il commente Aristote toujours avec le souci de voir l'unité dans la philosophie d'Aristote. C'est de comprendre comment les différents livres sont des perspectives différentes, mais de fait, il y a l'unité. Quand vous regardez du reste les grands commentateurs grecs, vous retrouvez la même souci. Bon, c'est Saint Thomas entre dans une tradition qui est d'essayer de voir l'unité de la philosophie d'Aristote. Ensuite, on a montré les deux derniers siècles, le point de vue, au contraire, historique de la pensée d'Aristote. Un souci, étant donné que certaines affirmations d'Aristote apparaissent comme ayant une certaine contradiction, on ne peut pas nier qu'il y a dans la pensée d'Aristote des choses qui ne sont pas comme moi quelquefois alignées. Alors, on a souligné que dans la pensée d'Aristote, la seule manière de comprendre un peu l'unité de la pensée d'Aristote était de saisir son évolution. Le premier Aristote est très proche de Platon, étant donné qu'Aristote était quand même 20 ans à l'école de Platon. Donc il est normal de voir qu'au début de la philosophie d'Aristote, Aristote est plus proche de Platon. Il y a en effet certains passages dans le livre d'Antoine Métaphysique, le livre Grand Homme entre autres, où Aristote parle nous platoniciens, comme si de fait Aristote parlait au nom de l'Académie. On ne peut pas nier qu'il y a des passages d'Aristote où on se sent beaucoup plus proche d'Aristote. Et puis alors, c'est tout, on a fait la découverte de certains fragments des dialogues d'Aristote qui étaient perdus, des fragments gardés surtout chez les stoïciens, où on avait l'impression que dans ces fragments, Aristote était beaucoup plus proche de Platon. Surtout des prophéties gardées dans Cicéron. Alors, dans l'anthropocrite, on trouve certaines affirmations qui semblent être un premier Aristote, Aristote d'accord, où Aristote, plutôt la mort de Platon, serait resté quand même très proche de l'Académie, très parti à cause de souffrance, de ne pas être le successeur de Platon, n'est-ce pas, et de laisser le successeur de Platon. Et alors, il serait parti d'avoir quitté l'Académie à ce moment-là, mais à ce moment-là, il serait resté, au fond, quand même très fort dans la note de Platon. Et ce n'est que progressivement qu'Aristote prend conscience de son propre génie, ou alors se fait part de plus en plus. Et que les dernières œuvres d'Aristote seraient des œuvres, alors beaucoup plus, des œuvres propres de la philosophie de la nature. Mais je donne en gros, parce qu'au fond, dans ce problème-là, il y a des nuances extrêmement différentes, n'est-ce pas ? Il y a des positions extrêmement différentes, et des positions un petit peu contradictoires, même. Parce que c'est extrêmement difficile, le fait de saisir l'évolution de la pensée d'Aristote. En ce sens, certains disent que les œuvres dernières d'Aristote seraient, au contraire, plus platoniciennes, revenu d'une certaine manière à Platon, alors que les premières seraient dans une perspective de la physique. Bon, on ne peut pas. Les premières œuvres de la physique d'Aristote, les premiers livres de la physique d'Aristote, sont des œuvres, au contraire, très en opposition à la pensée de Platon. Donc, il y a une seconde interprétation qui est celle-là. Et la troisième interprétation, on peut dire qui sont au banc. C'est une interprétation qui n'est ni celle de Jäger, ni celle de la tradition. Je ne sais pas ce que vous avez, depuis le début du cours, cessé de vous regarder et de vous analyser l'un et l'autre. Je dis ça tout de suite parce que ne pas se courir. Si vous venez de travailler. Alors, si vous n'avez pas envie de travailler, vous savez, je vous dirai que il vaut mieux que vous voyez pour les autres que je dis ça, c'est extrêmement désagréable quand on donne un cours, vous verrez, de voir certains qui ne m'intéressent pas et qui ont l'air tout le temps de sourire et de dire, allez, moi je te parle. Vous voyez. Alors, si pour les autres que je dis ça, je crois que le cours est important parce que c'est l'étude de la métaphysique d'Aristote, c'est assez important, c'est ça. Alors, si on n'a pas envie, c'est absolument libre. Voilà, ça je vous demande à quel point de départ, les anciens savent bien que ceux qui n'ont pas envie d'assister au cours, ils l'ont dégagé, c'est une richesse de l'homme, vous voulez, ça c'est très différent. Mais je donne le cours pour les étudiants, la finalité de cela, c'est une certaine coopération entre les professeurs et les étudiants. Alors, si vos professeurs ne vous intéressent pas, je comprends très bien que ça peut peut-être pas vous intéresser. Je comprends très bien la pensée d'Aristote que vous pensez difficile, je l'interprète à ma manière, vous pouvez très bien avoir une autre interprétation. Si vous êtes intelligent, c'est très intéressant d'avoir deux interprétations différentes. Mais si nous ne vous intéressons pas, n'y insistez pas. Donc, je désire que le cours se fasse dans un climat qui soit le plus possible, un climat de coopération. Je vous ai toujours dit que vous pouviez poser des objections, mais j'aime mieux que vous posiez les objections directement en les écrivant sur un papier. Vous pouvez très bien le faire, ou au colloque, venir les poser. Et pas entre vous, vous voyez, rarement l'impression de faire un petit dialogue entre vous pendant le cours. C'est pas le moment. Après le cours, vous passez ce petit dialogue, très bien, mais pas pendant le cours. Donc, je conclue. Ici, c'est simplement pour vous rappeler. La première interprétation, c'est celle d'Auban. L'interprétation d'Auban est tout à fait différente. Elle a un intérêt, parce qu'elle soulève un nouveau problème, c'est de considérer Aristote face au sophisme. Autrement dit, il voit que le problème dominant d'Aristote est un peu analogue à celui de Platon. Platon était face au sophisme, et Platon a essayé de répondre au sophisme. Et pour Auban, Aristote est un peu dans la même vertu, la même perspective, c'est-à-dire qu'il essaie de répondre au sophisme d'une manière différente de Platon, à sa manière, mais c'est de cette manière-là, avant tout, qu'on doit comprendre la perspective de Platon, d'Aristote. Donc vous voyez bien qu'à ce moment-là, la perspective de Platon et la perspective d'Aristote ne sont plus vues en opposition, elles sont vues au contraire, d'une certaine manière, en union, face au sophisme. Le grand danger, ce sont les sophistes. Platon l'a compris et Aristote a compris aussi que c'était le grand danger, et donc Platon et Aristote essaient de répondre aux sophistes. Dans cette perspective également, Auban est influencé par la perspective heideggerienne, ça on le voit assez bien, c'est assez net. Il essaie de montrer que la perspective d'Aristote n'est pas du tout une perspective systématique. Là, il s'attaque très nettement à tous les commentaires d'Aristote du Moyen-Âge. Et au fond aussi un peu des commentateurs grecs premiers, pour montrer que ce qu'il y a de plus important dans la pensée d'Aristote, c'est l'interrogation. Autrement dit, il reprend dans Aristote une perspective qu'on avait oubliée, parce que je crois qu'au fond, on avait quand même oublié cette perspective, de considérer que dans Aristote, il y a une perspective qui est la perspective de l'interrogation. Et pour lui, pratiquement, il n'y a pas de philosophie première dans la vie jusque-là. En considérant qu'on ne peut pas considérer dans la perspective d'Aristote qu'il y a des réponses. Aristote est resté avant tout celui qui a essayé de préciser ce que c'était la philosophie première de l'être en tant qu'être, mais au fond, il est resté dans une perspective dialectique. La perspective dialectique d'Aristote, c'est une perspective d'interrogation en voyant les difficultés et en souvent les différentes difficultés. De sorte qu'il n'y a pas au sens fort pour autant que une métaphysique d'Aristote. C'est vrai qu'il appelle, à un moment donné, cette science qui n'a pas de nom. La science de l'être en tant qu'être. Elle n'a pas de nom parce qu'on l'a nommé métaphysique après Aristote et que pour Aristote, d'une certaine manière, il n'y a pas de nom. C'est la philosophie première de la partie de la théologie d'Aristote et donc c'est parti. Ça fait des aspects différents. Il oppose, que du reste on avait opposé avant Auban, la perspective sagesse, philosophie première, et Dieu. Donc, Nous avons cette interrogation devant nous. Regardons le militarisme, regardons la philosophie première, essayons de comprendre à la fois la très grande diversité des livres. Voilà, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Nous devons comprendre qu'il y a une très grande diversité dans les différents militarismes. Les différents militarismes ne sont pas du tout composés comme on compose aujourd'hui une philosophie ou un livre qui a certaines unités. Mais ce ne sont pas seulement des chapitres. Ce sont des livres qui sont les uns à côté des autres et qui ont de fait une valeur extrêmement différente. Alors, je crois que c'est la première chose qu'on doit saisir. C'est la chose la plus facile à saisir. La diversité des livres. On devra se poser au terme, donc il faut toujours se poser la question sur tout ça, est-ce que de fait il y a une certaine unité? Pouvons-nous découvrir au-delà de cette diversité une certaine unité? Est-ce que de fait dire qu'il n'y a pas de solution à la position de bord, que tout demeure dans une perspective dialectique et qu'il n'y a pas de solution, est-ce que ce n'est pas un peu trop exagéré comme position? Ce n'est pas d'aller trop loin. D'autre part, il faut reconnaître que je crois que l'interprétation systématique d'Aristote, classique, si vous voulez, celle de Saint-Thomas ou celle des premiers philosophes grecs, va quelquefois peut-être un peu trop loin. Parce que la pensée d'Aristote est beaucoup plus une recherche qu'une systématisation. Ça, je crois en effet que c'est beaucoup plus une recherche. Là, pourtant, tu as raison de souligner cet aspect recherche de la philosophie d'Aristote. Mais je crois que cette recherche de la philosophie d'Aristote a quand même un certain but de découvrir certains principes et certaines causes. Ça semble extrêmement difficile de ne pas l'accepter. Parce que Aristote revient toujours là-dessus. Il s'agit de découvrir les diverses causes. Autrement, il n'y aurait pas une véritable recherche. On resterait toujours avec le point d'interrogation. Alors, vous voyez, je crois qu'il faut quand même se poser des diverses questions. À la fois la diversité et l'unité. Alors, je reprends. Nous avions vu, si vous vous souvenez, le livre grand de la philosophie première d'Aristote, simplement je mets un titre auprès du livre grand, c'est comme une introduction historique. Aristote insiste avant tout sur l'aspect de la sagesse. L'intelligence est faite pour la sagesse. Alors voyez, on voit bien que c'est une introduction historique dans une perspective des philosophes grecs. Les philosophes grecs sont ceux qui ont le sens de la sagesse. Le mot philosophia indique bien que le philosophe fait la vie de la sagesse. Et le mot philosophia apparaît chez Platon. Donc c'est pas ce qu'il a inventé, il est déjà chez Platon. Et le mot philosophia montre que la sagesse est quelque chose peut-être trop difficile à saisir pour l'homme, et donc que l'homme ne peut être que celui qui est la sagesse. Non pas celui qui la découvre, mais celui qui l'est. Donc celui qui est en recherche à l'égard de la sagesse. Et Aristote, dans le livre grand A, et ce point de vue-là c'est très intéressant parce que ça montre bien qu'Aristote se situe dans une perspective grecque de la sophia, de la sagesse, il montre que de fait l'intelligence humaine, comme elle aime de connaître la vérité, l'intelligence humaine recherche la vérité. Elle recherche ce qu'il y a d'ultime et la sagesse, ce qu'il y a d'ultime dans la connaissance. Voyez par exemple ce qu'il dit dans le livre Grand A au chapitre 2, où il nous donne les notes dominantes des six propriétés de la sagesse. Et donnant les six propriétés de la sagesse, il nous montre que cette connaissance de la sagesse ne peut être la connaissance des premiers principes et des causes ultimes. Et que la recherche des premiers principes et des causes ultimes ne peut être que la sagesse parce qu'il n'y a rien de plus difficile et il n'y a rien au-delà. Et donc c'est cela le propre de la connaissance de la sagesse. C'est la sagesse qui donne une finalité à toutes les autres connaissances. Après avoir rappelé qu'il existe nécessairement une sagesse qui recherche les premiers principes et les causes ultimes, Aristote rappelle que toute connaissance scientifique implique la reconnaissance des quatre causes. Donc, si la sagesse regarde les premiers principes et les premières causes, nécessairement, elle va regarder les diverses causes. Puisque toute connaissance parfaite recherche les quatre causes. Les quatre causes, je ne vous le rappelle pas, mais quand vous devez connaître la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. Et il est intéressant de voir que l'ordre des quatre causes n'est pas toujours le même. Je crois que c'est très important à souligner par rapport aux diverses recherches d'Aristote. l'ordre d'existence collective aux habités n'est pas le même en métaphysique, n'est pas le même en philosophie d'attitude, n'est pas le même en éthique. Donc il y a la possibilité de découvrir dans cette recherche des quatre causes une très grande diversité dans la recherche même des écrits d'Aristote. Après avoir fait cela, Aristote fait une enquête historique pour essayer de comprendre si de fait avant lui, on a découvert les quatre causes. Il montre aussi l'importance pour lui des quatre causes. Il ne consacrerait pas plus que du grand homme, la grande partie du grand homme, sur la recherche des quatre sur le point de vue historique de la recherche des quatre causes, et pour lui, la recherche des quatre causes n'était pas quelque chose d'absolument essentiel. Je crois que ça c'est important par rapport à Aubin. Par rapport à Aubin, là nous saisissons quelque chose qui me semble qu'il n'a pas assez souligné. Il n'a pas assez souligné que pour Aristote, la recherche des quatre causes était une chose absolument essentielle. C'est comme la structure de sa connaissance scientifique. Alors, Aubin, je le reconnais, au point de vue de la chose. Il considère qu'au plan de la physique, Aristote, la chose est juste au point de vue des quatre causes. Et donc, il reste définitivement dans l'ordre de l'interrogation. Le livre petit a pose un problème parce que c'est comme une seconde introduction. Alors, comme c'est une seconde introduction, il est mis à côté, à l'ombre du livre grand A, c'est pour ça qu'on l'appelle le livre petit alpha. Le livre grand petit alpha, pour certains, représente une introduction non pas à la philosophie première, mais à l'ensemble de la philosophie. Il y a une interprétation du livre petit a, on l'a mis là à côté parce que tout simplement le livre grand A était l'introduction à la philosophie première, alors on l'a fourré là à côté. En réalité, le livre petit A devrait être complètement séparé et être considéré comme une introduction générale à la philosophie. C'est vrai que dans le livre petit A, il y a quelque chose de tout à fait général, c'est de montrer que la philosophie est la recherche de la vérité. C'est de montrer l'importance de la vérité dans la recherche philosophique. Parce que la vérité finalise la connaissance philosophique. Si la vérité finalise la connaissance philosophique, on voit très bien comment il importe de signaler dès le point de départ le lien entre philosophie et vérité. Dans le livre petit a, on montre aussi, et ça pourrait être aussi une introduction générale à la philosophie, que pour qu'il y ait une pensée philosophique, qui implique pour Aristote une certaine pensée scientifique, il faut nécessairement qu'on puisse pas monter ainsi dans notre époque. Parce que si on remonte à l'infini dans l'ordre des causes, on ne saisira jamais une première cause. On sera dans une relativité absolue. Et si on est dans une relativité absolue, il n'y aura donc plus de pensée philosophique. Vous voyez, les deux soucis du livre petit a sont d'une certaine manière des soucis qui regardent un aspect réflexif sur toute la pensée philosophique. Le but de la philosophie, la condition nécessaire pour une pensée philosophique. Le but de la philosophie, c'est la recherche de la vérité. Et la condition nécessaire pour qu'il y ait une pensée philosophique, c'est que de fait, l'intelligence doit arriver nécessairement à un premier. Il y a une première cause matérielle, il y a une première cause formelle, il y a une première cause efficiente, il y a une première cause finale. Si on devait remonter toujours plus loin et qu'il n'y avait pas une recherche d'un premier, de fait, la philosophie ne pourrait pas se structurer. Donc voyez bien que c'est lui, petit a, qui a quelque chose de juste dans cette critique, de dire qu'il déborde absolument le livre, la philosophie première. Mais cependant, je crois qu'on peut considérer aussi le livre petit a comme une autre introduction de la métaphysique. C'est une chose qu'on va comprendre de voir. Parce que pour Aristote, la philosophie première est quand même la partie essentielle de la philosophie. De sorte que le livre petit a peut être à la fois considéré comme une introduction générale et aussi comme une introduction à ce que représente la philosophie première. Alors, si on le considère comme une introduction à la philosophie première, on le considérera comparativement au livre grand A comme une introduction critique. Le livre grand A est une exhortation et une introduction historique. Le livre petit a est une introduction critique. Où l'on essaie de préciser le pourquoi de la philosophie et la condition pour qu'il y ait connaissance philosophique. Vous voyez les deux aspects du livre petit a. Et ce point de vue-là, ce n'est pas du tout non avec le livre grand A. Ce sont deux aspects tout à fait différents. Ce sont deux aspects tout à fait différents puisque le livre grand A est entièrement basé sur le point de vue sagesse. Quoi ? Sagesse, ce que les prédécesseurs ont dit sur la recherche des différentes choses, alors que le livre petit a, and a simple group ethic. Totally beta. Really, beta, theory. Pour voir qu'elle le plus, on comprend bien dans sa perspective, c'est évidemment un livre extrêmement important, puisque c'est le livre des difficultés des apories. Aristote souligne toutes les apories, c'est-à-dire toutes les difficultés qui se posent à l'égard de la philosophie première. Est-ce que vraiment il peut y avoir une philosophie qui est une telle expansion et qui en même temps est une telle compréhension? On peut dire que le livre Beta montre la tension très particulière qui existe dans la philosophie première. C'est une philosophie qui, à la fois, à la plus grande extension, l'être en tant et en même temps la plus grande compréhension, puisqu'elle prétend saisir aussi la substance, et elle prétend saisir aussi ce que représente la substance première, au moins la chef de la substance première. La substance, c'est pareil. Donc il y a là quelque chose de très particulier dans cette science. D'habitude, les sciences sont enfermées dans un genre. Si c'est la science de l'être en tant qu'être, elle ne peut pas être enfermée dans un genre. Puisque l'être en tant qu'être ne se met pas dans un genre. Alors est-ce que c'est possible de penser qu'il est philosophique qu'il ne soit pas dans un genre? Alors c'est très important le détail. Il faut lire, je ne dis pas nécessairement à la suite, parce que ça pourrait paraître un petit peu fatigant, mais c'est important de lire de temps en temps une des grandes objections que souligne Aristote, une des grandes difficultés. Il y a 14 grandes difficultés. 14 grandes difficultés qui se lèvent. Alors, le livre Beta pour Aristote, c'est ce qu'il appelle sa dialectique. Dialectique d'Aristote n'est pas du tout au même niveau que la dialectique de Platon. C'est important de souligner. Parce que nous voyons bien que la dialectique de Platon fait partie de son épistémé, donc de sa science, tandis qu'au contraire, chez Aristote, la dialectique n'est pas la science. La dialectique, c'est le livre qui montre les opinions des autres ou nos propres opinions, tant que nous n'avons pas découvert les principes. La dialectique pour Aristote prépare la science. Il est nécessaire, dit-il, avant de pouvoir résoudre un problème, de voir une difficulté. Donc la dialectique soulève les difficultés. Et on pourrait dire que c'est comme un dialogue interne. Soi-même, on se pose à soi-même toutes les difficultés. Et on aide de se poser toutes les difficultés avant de résoudre le problème. Pour être sûr de bien résoudre. Parce que si on n'a pas soulevé toutes les difficultés, on risque toujours de passer au-dessus. Et de ne pas voir les vraies difficultés. Donc, on comprend très bien qu'il est important pour un sujet aussi grand, car il a pleinement conscience qu'il est le premier d'une philosophie première. Il est le premier à découvrir le sens exact de la causalité du art. Alors on comprend très bien, comme il est là, le premier, c'est notre pionnier. Il ne reprend pas ses étudiants. Il essaie au contraire d'entrer dans quelque chose dont il a conscience qu'il est le premier à le faire. On comprend très bien que dans le livre Beta, il relève toutes les objets. C'est proche de Platon, c'est proche des sophistes. C'est une chose très intéressante de voir dans le livre Beta tous les fondements antérieurs. Parce que ce sont des objections qu'Aristote avance, mais ce sont des objections aussi qui tranchent. Mais quand vous regardez dans Parménide, pas ça parce que c'est intéressant à voir le parallélisme entre Beta et Parménide, vous voyez combien dans Parménide, la partie dialectique d'interrogation est grande. Et au fond, nous retrouvons constamment dans le livre Beta ces interrogations. Ces interrogations du lien entre l'être et l'un, entre le point de vue des principes de l'être et l'un. On voit constamment ce point de vue-là. Et bien, c'est aussi dans le livre Beta. Le livre Gamma. Donc, vous voyez, le livre Beta est tout à fait autre chose. Déjà, nous avons là trois livres très différents les uns des autres. Donc, une couleur tout à fait différente. Le livre Gamma. Et le livre qui va nous présenter ce que représente la philosophie première en tant que l'étude de l'être en tant qu'être. Ça, c'est une chose qu'il faut essayer de bien saisir. Mais le toon epon, c'est-à-dire ce qui est en tant que vue du point de vue de l'être. Je ne crois pas qu'il faut traduire l'étant en tant qu'étant. C'est très très. Ça risquerait de vous mettre dans une perspective très très différente de cette Aristote. Il ne faut pas projeter sur Aristote les problèmes de l'idée. Ça peut être très intéressant, mais il faut quand même essayer aussi de saisir le problème Cristo, dans ce qu'il a de propre, c'est-à-dire par rapport à Darwin, par rapport à Aristote, par rapport à Platon. Et bien dire qu'au fond, le problème de l'être en tant qu'être, selon cette formulation, est propre à Aristote. Platon, lui, posait toujours le problème de l'être pris pleinement, le topon ontos, ou aplo, l'être pris de façon pleinement, l'être pris de façon réelle, le topon ontos. Donc l'être pris de façon réelle, pris réellement. Et l'être pris réellement, c'est la substance et la forme en soi, la forme de Dieu en soi, là en soi. Et alors il oppose, quand il dit pas l'être pris réellement, il l'oppose à ce que représente le point de vue de l'être sensible. L'être sensible, c'est l'être qui apparaît dans le bouquin, la génétique. La génétique n'est jamais pour Platon l'être réellement. Donc l'opposition que fait Platon entre la génétique et le point de vue d'Oon, Onto, est une distinction toute différente que celle que prend ici Aristote. C'est très important de bien situer ces deux perspectives. Et c'est pour ça qu'Aristote ne reprend pas ici le toon ontos, mais il prend le toon éon. Quand on connaît un peu les analyses d'Aristote, on voit bien ce qu'Aristote veut dire, c'est que chaque science regarde un point de vue particulier, et que ce n'est pas l'objet matériel les sciences, mais c'est l'aspect propre sous lequel on les regarde. Et c'est pour ça qu'Aristote souligne tout de suite que c'est le toon éon, pour bien nous faire comprendre que le propre de la philosophie première, c'est de regarder toute chose sous le point de vue du toon. Alors le point de vue du toon pour Aristote, je crois qu'on peut dire que c'est le point de vue de l'être. Alors voyez que pour Platon, dans un langage aristotélicien, nous devrions dire que pour Platon, la distinction est prise matériellement. Alors, Aristote veut donner une distinction qui n'est plus une distinction matérielle. C'est pour ça que je crois que c'est très très important de voir dès le point de départ ce qu'il dit dans ce livre Gamma pour bien saisir la perspective dans laquelle Aristote se place. Ce n'est plus l'opposition entre l'être sensible et l'être pris réellement, c'est-à-dire l'être immatériel. Ce n'est plus cette opposition l'être sensible et l'être immatériel qui commande la vision aristotélicienne, c'est au contraire le point de vue de l'être considéré du point de vue du mouvement et l'être considéré du point de vue de l'être. Là, vous avez, je crois, une distinction du capital pour bien saisir la différence qui existe entre la perspective aristotélicienne et la perspective de Platon. Pour Platon, la distinction se prend comme une division. Pour Aristote, c'est une distinction. Je crois qu'on peut le dire, étant donné que ce qui nous est dit dans le point de vue de l'éducation. Je vous mets sur le tableau pour que vous voyez bien et que vous y réfléchissez. Parce que je crois que c'est quelque part pour comprendre la perspective de l'Église Gamma. Si on ne voit pas ça, la perspective de l'Église Gamma, c'est que l'Église Gamma est un très grand livre. Un très bon livre, un livre Gamma. Alors, pour Platon, on peut dire que la grande distinction, c'est l'être sensible. C'est-à-dire le point de vue de la génétique. La génétique, donc de la génération. Tout ce qui est dans l'ordre de la génération, tout le monde du mouvement. Et puis l'être réellement. L'être pris réellement. L'être qui est vraiment l'être, si vous voulez. Qui est égal, je vous dis, comme nous reprendrons, c'est la substance, et qui, en définitive, regardera les formes. Seules les formes immatérielles sont l'être pris réellement. Donc la grande opposition, c'est entre être sensible et être pris immatériellement. C'est donc une division, une distinction réelle entre ce monde sensible et le monde immatériel, le monde des formes, le monde de l'âme, si vous voulez, de l'âme spirituelle, de l'humain. Donc, séparation entre les deux. Aristote, au contraire, c'est cette distinction qui est très was er in Europa ist entgegengeblättert hat, die Toren und Kuppel, und dort die tolle Toren. Et donc, parce que la même différence, pour bien montrer que ce n'est pas une séparation, mais une distinction, il regarde le Toron sous le point de vue du homme. Le Toron est homme. Donc c'est sous le point de vue du homme, donc le point de vue de l'être, qu'il regarde le point de vue du Toron. Alors que le fait, lorsqu'il s'agit de la philosophie proche de la philosophie de la nature, Aristote regarde ce qui est. Ce qui est nul, sous le point de vue du mouvement, c'est-à-dire en tant qu'il est nul. De sorte que la métaphysique pourra regarder aussi ce qui est nul, mais ne regardera pas en tant qu'il est nul, mais de saisir dans ce qui est nul l'être, le point de vue de l'être. C'est ça qui va de fait commander une autre distinction, celle de Platon. Peut-être que ce temps n'est pas assez. Il n'y a pas assez saisi la différence de perspective entre le point de vue d'Aristote et Platon et le point de vue d'Aristote. Et ce n'est plus une séparation des vies entre l'être sensible et l'être immatériel, mais c'est une distinction de l'intelligence qui est capable de saisir la même réalité sous des points de vue différents. Et Aristote lui-même revient toujours sur là-dessus. On peut regarder une même réalité sous des points de vue différents. Puisque vous pouvez regarder une même réalité sous le point de vue différent, la distinction des réalités ne correspond pas à la distinction des sciences. Alors que pour Platon, il y avait une distinction immédiate entre le point de vue du réel et le point de vue de la connaissance. Les distinctions de la connaissance et les distinctions du réel sont parallèles. Pour Aristote, les distinctions du réel et les distinctions de la science ne sont pas parallèles. On peut regarder la même réalité sous des points de vue différents. Alors vous voyez, ceci fait comprendre comment, dans cette science qui regarde l'être en tant qu'être, nous serons en face d'une extension la plus grande extension, c'est ce qui est dans les livres Kamma, et cependant, malgré cette très grande extension, il y a un ordre dans cette extension, parce qu'il y a un premier. Et puisqu'il s'ouvre le point de vue de cette science, n'est pas seulement la science la plus étendue, mais c'est la science en même temps qui saisit dans la réalité ce qui vient de plus profond et de plus intime. D'où, dans cette science où l'extension est la plus universelle, il y aura en même temps un objet, ou plutôt une réalité, quelque chose qu'on regarde en premier lieu, le point de vue de la distance. Ceci est donné donc dans le livre Kamma. Le livre Kamma est donc un livre que je crois que nous pouvons considérer comme une étude critique. Réflexion critique. Vous voyez, c'est ça qu'il faut bien saisir dans le livre Kamma. Étant donné que la philosophie première est déjà d'une certaine manière constituée, Aristote l'a déjà découvert, Aristote réfléchit sur l'extension de cette science. Cette science est tout à fait particulière comparativement à toutes les autres sciences, parce qu'elle a une extension absolument universelle. Les autres sciences regardent une partie de l'être. Alors que la philosophie première regarde la totalité de l'être. Elle ne regarde pas seulement une partie, mais la totalité. Donc la première distinction. Deuxième distinction qu'il va faire, c'est que dans cette très grande extension, cependant, il y a une unité. Cette unité n'est plus une unité générique, mais une unité dense. Série L. Vers l'un. Série L, c'est cette unité. Donc cette unité dense. Tandis que les autres sciences, on dit d'une certaine manière une unité générique. Je sais très bien que c'est très délicat, parce que dans certains formes, dans certains termes, Aristote encore un mot énorme, même par rapport à l'être, mais je crois que dans les endroits les plus nets où Aristote réfute la pensée, toujours l'être n'est pas dans un genre. Si l'être n'est pas dans un genre, considérer toute chose sous le point de vue de l'être, c'est nécessairement le considérer au-delà de la distinction du genre. C'est très important, c'est un mot que pour Aristote, il y a deux régimes de la pensée, l'un qui est au niveau générique et l'autre qui est au-delà du régime générique. Il y a quelque chose d'autre qui nous permet de connaître la réalité qui n'est plus dans un genre. Et cette connaissance dit qu'elle implique un ordre. C'est une connaissance qui implique un ordre en ce sens que toutes les déterminations de l'être vont se dire relativement à une première détermination de l'être qui est la substance, qui est l'idia. L'idia est donc ce qui va permettre de comprendre que cette extension qui connaît une très grande diversité obtenez une certaine liberté. Le livre Gamma va également montrer que cette science première, qui est la philosophie première, s'intéresse également au premier principe, le principe de non-contradiction. C'est aussi un problème extrêmement important pour Aristote de montrer que cette philosophie qui regarde l'être, qui regarde l'existence, dont l'extension nous donne la plus grande compréhension par rapport à la réalité, est en même temps la science qui va regarder le premier principe, le premier action. Aristote nomme action. L'action de non-contradiction. Cette action, c'est très très clair, on l'a dit, à ce principe par association. Il faut être très attentif à ça. Parce que l'action, pour Aristote, c'est une signification particulière. C'est pas un principe. Hein. Et le, c'est un action. Un action en ce sens que c'est ce que tout le monde accepte. Ça reste comme d'une certaine manière quelque chose dans l'ordre dialectique. Là, je crois qu'au grand, ça fait raison de souligner ça, avec beaucoup de force. Que lorsqu'il s'agit du principe de notre tradition, cette action de notre tradition, il s'agit bien de quelque chose qui est accepté par tout le monde. Et que, on ne peut pas le montrer, c'est bien évident. Alors, il est accepté par tout le monde. La seule chose au point de vue critique qu'on peut faire, c'est de montrer que si on le rejette, il n'y a plus de pensée qu'il y en a.
Accidentelle, et distinguer la philosophie première de la société.
l'exercice. L'exercice est sa position à lui. Il reconnaît que l'être pris de façon accidentelle a la même extension que l'être pris en soi. Donc, du côté de l'extension, il n'y a pas de distinction entre le sophisme et le philosophe. Et c'est pour ça qu'il dira que le sophisme se sera du manteau du philosophe et que c'est le grand philosophe. Mais du côté de la compréhension, c'est tout à fait autre chose. Pourquoi ? Parce que le sophisme, regardant l'être pris accidentellement, ne voit qu'aspect extension. Il ne peut pas saisir le principe de l'être en lui-même. Or, saisir l'être en lui-même, c'est tout l'effort du philosophe. Tout l'effort du philosophe, c'est saisir le principe de ce qui est. Si vous regardez l'aspect accidentel, vous avez un aspect de relation. L'accident, c'est toujours une relation. C'est ce qui arrive. Ce qui arrive, et ce qui arrive sans nécessité. Donc ce qui arrive, c'est toujours voir autrement. Mais là, évidemment, il y a là quelque chose de particulièrement important, parce que dans la seule essence sophistique, c'est l'intelligence humaine qui devient la mesure de toute chose. Protagora. On voit bien là comment Aristote attaque le point de vue de Protagora. À côté de ce point de vue-là, Aristote termine en montrant l'être au sens de vrai. Et montrant que l'être au sens de vrai peut s'entendre en ce sens que la vérité est dans la proposition et donc dans l'intelligence, et donc ce n'est pas là, ce n'est pas ce que considère la philosophie première. C'est encore une distinction qui est très importante à souligner. Nous reviendrons sur ce problème dans le livre Pella. Il y en a un problème qui se pose en comparant ce qu'il y a dans le livre avec le livre Pella. Et nous entrons alors dans le livre Pella. La prochaine, donc, que je donnerai le résumé de